Bonjour Anne-Claire, bonjour Sophie et bonjour à tous les auditeurs de la radio Canu, la plus rebelle des radios. On va évidemment parler aujourd'hui de l'indépendance de la République démocratique du Congo depuis 1960. En fait, le Congo ex-Zaïre est un pays de l'Afrique centrale où l'on parle quatre langues. Il s'agit de Kikongo, Chiluba, Lingala et Swahili. Et le pays est aussi simplement appelé RD Congo, RDC Congo Kinshasa. Voilà quant à ce qui concerne son indépendance. C'était depuis 1908, à l'époque des explorations européennes par des célèbres explorateurs Diego Cao, Livingstone et Henri Stanley, qui parcourait le monde. Et à cette époque, la Belgique, qui était aussi à la tête des grandes puissances européennes, avait fait connaître plutôt, parvient à faire connaître aux puissances européennes sa prise de possession du Congo, et le Congo était devenu Congo belge. Et c'était là le commencement de la colonisation. Il dirigeait tout au Congo et le roi Léopold II, il était à la base de tout ce qui était au Congo. Le Congo était devenu comme propriété personnelle du roi Léopold II, où il exploitait les minerais pour la Belgique et il avait commencé à construire des chemins de fer et tout Congolais était au service de la Belgique. Ils étaient devenus comme des esclaves. Ils servaient les Belges. Ils arrivaient même à les appeler les Bwana, qui veut dire maître. Et donc, les Congolais voyaient comme si les Belges étaient leurs maîtres, parce que c'est eux qui dirigeaient leur pays, qui faisaient tout à leur place. Ils faisaient des travaux difficiles. Il y avait des exécutions et des tortures. Et donc, je peux dire à la fin de toutes choses, c'était une époque difficile pour les Congolais parce que la Belgique faisait des exécutions, des mutilations. Il y avait des épidémies, des famines. C'est ça qui était la preuve d'un système de cette inégalité qu'avait amené la Belgique au Congo. Et enfin, vers 1920, les indépendantistes congolais avaient trouvé que non, on ne peut pas rester comme ça, que la Belgique puisse toujours nous diriger. Et ils en avaient assez de tous ces... Comment dirais-je... tous ces traitements inhumains. Et il y avait un clic, donc il y avait Patrice Lumumba et ses alliés qui s'étaient levés pour réclamer, revendiquer leurs droits en tant que Congolais, fils du pays. Et ils avaient commencé à faire les menaces à la Belgique. C'est alors que le roi belge avait trouvé qu'il ne pouvait plus parce que, comme on dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir et il y a aussi un temps pour se réjouir. Pour jouir, c'est ça. Alors, c'est aux dates, après une table ronde qui s'était passée à Bruxelles, et la Belgique, le roi signe des documents signifiant donc l'indépendance de la République démocratique du Congo, et c'était fixé le 30 juin 1960. Et après cette indépendance, il y avait des élections qui s'étaient passées et c'est Lumumba et ses alliés qui avaient emporté, mais Lumumba avait cédé ses postes à son adversaire qui était Joseph Kasavubu. Donc il était devenu le premier président après la colonisation. Et Lumumba, lui, avait pris le poste de premier ministre et du ministre des Défenses. Vous voyez, ils travaillaient ensemble, mais après ces élections, c'était devenu une période chaotique pour les Belges. Parce que, du coup, les Congolais se sont levés avec un autre gouvernement qui était dirigé par Lumumba. Ils se sont levés avec des violences qui s'est multipliée, plusieurs provinces, ils commençaient à réclamer, à revendiquer leurs droits de l'indépendance. Et ils avaient commencé à piller, à tuer les Belges. Et la Belgique avait trouvé non. Et les Belges ne pouvaient plus rester au Congo. Ils avaient envoyé des troupes pour rapatrier les Belges dans leur pays. Et après cela, Lumumba et son chef qui était Kasavubu, ils ne s'attendaient plus. Kasavubu avait peur de Lumumba. Il se croyait que Lumumba ne s'arrêtait pas de se faire des ennemis par-ci, par-là. Il a préféré nommer Joseph Mobutu, qui était l'ami de Patrice Lumumba, au poste de chef d'état-major. Et après quelques temps, Lumumba s'est fait arrêter. Et c'est à ce moment que Joseph Kasavubu nommera Mobutu, qui était l'ami de Lumumba, au poste du premier ministre de la République. Et en 1965, Mobutu, il aura fait un coup d'état au président Joseph Kasavubu, et le pays devient le Zaïre. C'est à l'époque de Mobutu que le Congo était devenu le Zaïre. Et Mobutu conduit le Congo pendant 32 ans avec une dictature terrible. Quelques jours après l'indépendance, les soldats de la force publique et les autres forces se révoltent en pillant les propriétés des Européens, et ils s'en prennent aux officiers et civils européens. Et le gouvernement belge envoie des troupes pour protéger ses ressortissants du Congo.
Indépendance, tcha tcha, tozumiye.
Alors, on vient d'écouter le morceau Indépendance Cha-Cha du groupe Africa Jazz, qui a été créé en 1960 pendant l'année où le Congo va devenir indépendant de la Belgique. Et c'était la chanson qui était populaire, que tout le monde reprenait en cœur et dansait dessus, voilà. Et on continue du coup avec la suite de l'histoire du Congo avec l'arrivée de Mobutu au pouvoir.
Je disais tout à l'heure que le premier président était Joseph Kasavubu et Lumumba, qui avait remporté les élections, était comme premier ministre et le ministre de défense. Et à cette époque-là, l'ami de Lumumba, qui était Joseph Mobutu, est donc nommé chef d'état-major. Il était colonel et il est évident que Lumumba, il était communiste. Pendant qu'il était placé en résidence surveillée à Kinshasa, Joseph Mobutu devient premier ministre parce que président Kasavubu voyait que son ministre, qui était Lumumba, s'arrêtait pas de se faire des ennemis. Il a préféré de nommer Mobutu en tant que premier ministre à la place de Lumumba, pendant que Lumumba était en résidence surveillée. Et en 1965, Mobutu devient chef de l'état-major de l'armée et renversé par un coup d'état le président Kasavubu. Et le Congo devient le Zaïre au prix d'un régime autoritaire, parce que Mobutu, il était un dictateur. Et il prenait tout pour lui. Il n'avait pas de collaborateurs. Tout le monde était ne servait que lui. Donc c'était, il s'appelait même roi du Zaïre. Oui, roi du Zaïre. Et il régna pendant 32 ans. Et ce n'est qu'en 1997, et l'avancée de l'AFDEL, force armée rebelle, l'obligeait à quitter Kinshasa, et le régime de Mobutu tomba entre les mains de l'AFDEL, était affaibli par la crise économique, la corruption et abandonné par la puissance occidentale. Et le porte-parole de l'AFDEL, qui était Laurent Désiré Kabila, le père de celui qui est en place aujourd'hui, Joseph Kabila, se proclame le chef d'État. C'était en mai, le 17 mai 1997. Et le pays a repris donc le nom du Congo.
Okay. Ouais. Et est-ce que Mobutu était soutenu par les Belges ou par des puissances européennes quand il est venu au pouvoir?
Bien sûr, oui, parce que lui, comme il avait voulu, il avait très besoin d'être, de devenir un grand au monde, oui, il obtenait des soutiens un peu partout. En Amérique, en Europe, ouais, il avait de grandes collaborations avec les Européens, les Américains, tout ça. Mais il était, tu vois, à force, comme il était devenu célèbre, il n'avait plus joué son rôle de leader de la nation. Il a commencé à torturer. Il a trouvé que c'était devenu sa propriété privée, comme disait le roi belge Léopold II. Sa propriété personnelle. Donc tout le monde s'agenouillait devant Mobutu. Il n'y avait pas la démocratie, personne n'avait la liberté d'expression. Et donc tout était dirigé par lui, était contrôlé par lui. Ouais, c'était ça, ouais.
Et Lumumba, lui, qu'est-ce qu'il est devenu?
Lumumba? Mmh. Lumumba était décédé il y a longtemps, il est décédé. Et puis c'était les Américains, c'était à l'époque de Mobutu. Oui, c'était, je crois, les Américains, tout ça. Comme lui était encore là, ils avaient compris que non, si Lumumba reste toujours là, on va pas recevoir. Ils savent ce qu'ils font en cachette là. Parce que chez nous, on se dit que les Blancs sont la cause de notre malheur. Parce qu'ils viennent au Congo chercher ce qu'ils veulent. Mais ils en prennent, mais ils ne satisfont pas les Congolais. Et ils sont là, au profit de leur richesse, ils prennent tout. Et bien, ils contrôlent pas.
Toutes les matières premières.
Les matières premières, oui.
Il y a quoi comme matières premières au Congo?
Il y en a plein, il y a les cobalt, les coltans, il y a les manganèses, il y a l'or, il y a les diamants, il y a presque tout, 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 il y a. On est toujours là sur la radio Kani. Nous allons, comme je venais de dire tout à l'heure, que Lumumba, il est mort. C'est la cause de sa mort, c'était les Occidentaux qui ont participé à cette mort. Ben, pendant qu'il était emprisonné à Lubumbashi, il avait rédigé une lettre à sa femme en disant « Je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. » Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche, à une indépendance sans restriction. Le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi qui ont trouvé des soutiens parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, ces organismes en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo, c'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance à une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi, même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qui se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que les jours où il n'y aura plus des colonisateurs et les mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté, sans justice, il n'y a pas de dignité, et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable, à la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa dignité, ne me plaire pas ma campagne, m'accompagne plutôt, mais je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et de sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. C'était là le message écrit par Patrice Lumumba pendant qu'il était en prison avant sa mort. Bien, on continue avec notre émission. C'était le 17 mai 1997 que le pays change de nom, devenant la République démocratique du Congo, et Kabila, Laurent Désiré Kabila, conduit le pays d'une manière autocratique que son prédécesseur qui était Mobutu, parce qu'il lui était dictateur, et donc cela les plonge dans la guerre. Donc c'est la cause de la guerre au Congo avec les M23 aujourd'hui, avec les Rwanda, parce que c'était Laurent Désiré Kabila qui n'avait pas voulu qu'il puisse collaborer avec d'autres puissances au monde. Et depuis l'assassinat de Kabila, c'était en 2001. Et Laurent Désiré, c'était le 16 janvier 2001. Et la fin du conflit du Congo et l'entrée d'une phase de démocratisation marquée par la tenue des élections en 2006. Et en 2011, c'était toujours Joseph Kabila qui a remporté. Et le président actuel, c'est Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila.
Et son parti, c'est
l'AMP. Avec, quand on parle de l'AMP, donc on voit Joseph Kabila et ses alliés. Et son parti, c'est PPRD.
Ma sœur, tu sais que nos maris sont devenus plus politiciens que les politiciens même. Ils mentent comme ils respirent. Et ils ne sont jamais rassasiés. Ils sont dans toutes les sauces.
respire. Ils se font toujours plaisir. Nous réclamons leur présence. Ils menacent, veulent nous boxer. On sera savoir. Ça va se savoir. Chérie, attention à tes sorties. Les salopes sont pleines dans la ville. Elles se cherchent sur nos maris. On sait. On sera se voir, ça va se savoir. Menteurs, les hommes sont des menteurs. Menteurs, les hommes sont des menteurs. Toujours prêts à tout pour ça. Ça ne va pas, non? Travailler, travailler. Tu n'as même plus le temps pour moi. Est-ce que la nuit, les bureaux sont ouverts? Et moi, maintenant, je suis devenue ta sœur ou je suis devenue ta nièce? Tu me tournes de l'autre quand tu es fatiguée, fatiguée. Ça va, c'est ça.
Dans l'émission Lilith Martine et les autres. Donc là, on a terminé la première partie de l'émission qui était sur l'indépendance du Congo. Et on peut rappeler au passage qu'il y a un spectacle qui se joue qui s'appelle Une saison au Congo et qui est tiré d'un texte d'Aimé Césaire. Voilà, donc il y a aussi le livre d'Aimé Césaire qui parle aussi exactement du même sujet.
Et du coup, maintenant, on va écouter un reportage de Lucie qui a été fait dans la région du Kivu à l'est du Congo. Et du coup, qui explique un peu les violences sexuelles que subissent les femmes et comment entre femmes elles se sont fortes pour se battre et trouver des solidarités pour empêcher leurs enfants de partir faire la guerre et de faire des sévices à d'autres femmes. Et du coup, on pourrait peut-être rappeler assez rapidement la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Du coup, est-ce que c'est encore la guerre ou est-ce que ça s'est calmé ces derniers temps?
Bien, Annie Claire, vous savez, maintenant c'est un peu tranquille, mais
tout, je crois que tous ces groupes-là sont toujours là, et les groupes armés rebelles qui font de n'importe quoi à l'est du Congo, et c'est depuis une décennie que c'est là que déjà commencé, et ça continue toujours. Il y avait même en 2010 un rapport mapping de l'ONU qui avait signalé que c'est en République démocratique du Congo où les femmes sont plus souvent violées. Donc là, ils utilisent les violences faites à la femme, les violences surtout sexuelles faites à la femme, comme une arme de guerre. Et nous regrettons en tant que Congolaises, parce que là, nous voyons comme s'il n'y a pas vraiment... Il y a l'impunité qui est souvent là, parce que même s'il y a des démarches, des poursuites, tout ça, et on ne défère jamais ces responsables de ces actes en justice, même s'ils sont différents en justice, il y a d'autres qui sont intouchables, qui parviennent même à corrompre la justice, donc à ne pas les dénoncer. Donc c'est ce que vraiment les femmes congolaises nous déplorons en tant que femmes, parce que chez nous, nous avons un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, parce que c'est la femme qui donne la vie, et si vous n'arrivez pas à la respecter, vous la prenez comme un objet. Nous croyons que c'est pas d'une cette façon que la nation va aller de l'avant, soit le Congo va avancer. Il faut que toutes ces choses, toutes ces violences faites aux femmes congolaises doivent s'arrêter. Et je rappelle aussi qu'il y avait Saint-Condé, personnes féministes qui sont toujours là, qui tapent le poing, et en disant que non, ils veulent qu'on puisse mettre un tribunal pénal pour la RDC d'après toutes ces violences sexuelles faites aux femmes congolaises. C'est ce que aussi nous, les Congolaises, nous attendons de la communauté internationale, afin que ces tribunaux puissent s'ouvrir pour qu'on puisse interpeller tous ces responsables de ces actes-là, tant civils et militaires, qui ont commis des actes de violence. Parce que vous savez, à l'est du Congo, là où se passent toutes ces violences faites aux femmes, ces femmes sont devenues désespérées. Elles ne reçoivent pas des aides. Donc elles sont restées toutes dans leur sort comme ça. Ça peut pas marcher comme ça, parce que elles ont une vie devant elles. Donc nous avons besoin de soutien de tout le monde au monde, qu'ils puissent voir comment les femmes sont négligées, sont maltraitées à l'est du Congo.
Et moi, j'ai aussi une question que je pense qu'il peut être intéressant pour comprendre après ce que va nous expliquer Lucie. Du coup, au Congo, il y a combien de langues officielles ?
Et nous avons 4 langues.
Qui représentent les différentes ethnies, en fait.
Oui, en fait, non, pour les ethnies, il y en a plusieurs, mais les langues qui sont nationales sont 4 langues. Donc, il y a les Kikongo, les Tshiluba, les Lingala et les Swahili. Donc, ici, elle est de l'est du Congo, de la province là où on parle les Swahili. Il y a les Nord Kivu, qui est Goma, et les Sud Kivu, qui est Bukavu, et les Maniema, qui est Kindu.
Ok. Oui. Et dans la guerre, à un moment donné, ça a pas mal opposé des chefs de différentes ethnies entre elles, avant que ce soit Kabila et que ce soit qu'il y ait une sorte de réunification. C'est ça qui s'est passé après la mort de Kabila père, non?
Je n'ai pas bien saisi, c'est là, vous dites.
C'est bon. On va écouter Lucie, puis on reviendra dessus.
D'accord.
La non-mixité, chez nous, c'est un concept nouveau, presque révolutionnaire. Mais il y a des pays où c'est pas nouveau du tout. Ça a toujours été comme ça. Les hommes s'occupent de la guerre, les femmes s'occupent du reste. On est allé en République démocratique du Congo. C'est quelque part au centre de l'Afrique. On en a entendu parler quand les pays voisins se sont mis en guerre, le Rwanda et le Burundi. C'est le pays des Hutus et des Tutsis. Il y a aussi les Banyamulenge, les Babembe, les Babayu et d'autres tribus. On appelle ça des guerres tribales. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça fait des décennies que cette région-là est sous tension, parce que ça arrange tout le monde. Les colons ont fait des transferts massifs de population pour rentabiliser l'occupation des terres. Ce qui fait que maintenant, il y a des gens qui se retrouvent sur des territoires qui ne sont pas ceux de leurs ancêtres. Il y a des mines, donc il y a des entreprises multinationales qui se battent pour avoir les profits des diamants, de l'or, etc. Et puis, il y a les visées des politiciens des pays voisins, comme le Rwanda, qui essaye toujours d'annexer des territoires. Donc, les hommes sont allés à la guerre, et les femmes, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles sont victimes, bien sûr. Elles sont victimes de la guerre, ça veut dire concrètement qu'elles sont victimes de la malnutrition, parce qu'elles ne peuvent plus aller au champ et travailler normalement pour nourrir leur famille et se nourrir. Elles sont victimes des viols. Il y en a énormément. C'est un coin du monde qui est très connu pour des viols massifs par les guerriers, par les démobilisés, par les civils. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles se bougent, elles se regroupent pour survivre. On pourrait appeler ça de la sororité. Elles ne parlent même pas de féminisme. Elles ne parlent bien sûr pas de non-mixité. Elles essayent juste de survivre et de se serrer les coudes. Elles sont des milliers, vraiment des milliers comme ça, organisées en groupe sans aucun support, sans aucune aide extérieure. Personne ne vient parce que pour arriver à la première bourgade où habitent ces femmes, il faut faire 5 heures de route si on a la chance de pouvoir louer un 4x4. En fait, personne ne loue de 4x4 pour aller dans des endroits pareils. Et donc elles sont en vélo ou à pied et elles voient jamais personne. On en a rencontré quelques-unes, enfin une bonne centaine. Et qu'est-ce qu'elles font quand elles sont une bonne centaine parce que quelqu'un arrive, enfin au bout de cette route ? Eh bien elles chantent. Elles chantent pas des complaintes, elles chantent pas des prières à Dieu, elles chantent pour se serrer les coudes et pour se donner de l'énergie. Et ça marche. Elles ont une énergie de dingue et elles veulent la partager. Alors on la partage avec vous. On laissera la parole à l'une d'entre elles, Lucie Chandinga. Lucie est quelqu'un de très effacé et très calme, sauf quand on lui met un micro devant la bouche. Là, elle se dit que c'est pas possible, ça va pas durer. C'est sûr qu'à un moment ou un autre, ce truc va arrêter de marcher, ou bien on va l'interrompre parce qu'on peut pas la laisser parler plus de 5 minutes de suite. Elle se trompe, bien sûr, mais au cas où, elle parle très vite, mais vraiment très très vite. On a essayé de ralentir un peu l'enregistrement, mais si c'est encore un peu trop rapide, eh ben faites un effort.
Je travaille avec les femmes paysannes du territoire de Fizi. Je suis la coordinatrice de la FIPA, qui est l'action des femmes pour les initiatives de paix. Il y a eu des problèmes entre différentes ethnies qui habitaient ensemble. Il y avait la communauté de Babembe, la communauté de Banyamulenge. Avant, ils cohabitaient, ils s'échangeaient, ils faisaient des mariages entre eux. Mais compte tenu de la guerre, les deux populations se sont séparées. Ils ne se supportaient plus. Alors, on a essayé de regrouper les femmes. Nous avons vu que nous, les femmes, nous sommes les premières victimes. On a essayé dans notre organisation, on a dit qu'est-ce qu'on va faire. Il faut qu'on organise un séminaire atelier, qu'on fait des échanges entre les femmes Babembe et les femmes Banyamulenge, et aussi appeler d'autres femmes de différentes ethnies pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre nos problèmes entre femmes. Vraiment, on a connu beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes de viol, les problèmes des enfants. On a amené nos enfants à la guerre sans notre consentement. Alors les femmes restaient avec des problèmes au cœur. On a dit non, c'est bien qu'on puisse organiser un atelier, on discute ensemble pour voir. On a dit qu'on ne peut pas rester comme ça en croisant les mains. Alors les femmes ont commencé à échanger. D'abord, on avait connu un grand problème parce qu'il y a les enfants à Banyamulenge ne pouvaient plus venir à Baraka pour étudier.
Ah oui, Lucie, elle dit nos enfants. En fait, des enfants mâles qui ont entre 15 et 18 ans, en général, on les appelle des guerriers ou des guerriers potentiels. Ça signifie qu'accueillir dans sa maison un enfant de la colline d'en face, c'est-à-dire de la tribu d'en face, ça veut dire accueillir un guerrier potentiel. Quelqu'un qui peut, d'une minute à l'autre, reprendre les armes, ou bien se retrouver encerclé par d'autres enfants guerriers. Pour les femmes comme Lucie, ça reste des enfants.
Alors on a dit non, c'est bien qu'on puisse appeler une réunion entre les deux communautés pour voir comment est-ce qu'on peut venir en aide avec ces enfants, pour aider ces enfants à venir faire les examens d'État. Parce que là-haut, dans les moyens plateaux et les hauts plateaux, ne fait pas les examens d'État. Il faut que ces gens-là descendent vers Baraka ou Uvira pour faire les examens.
Pourquoi ils ne descendaient pas?
Compte tenu de la guerre, ces gens-là ont resté 2 ans sans pouvoir faire les examens d'État. On a dit non, on ne peut pas rester comme ça. Avant, on habitait dans de bonnes conditions. C'est le conflit qui nous sépare. Et nous, tant que femmes, nous sommes tous touchés par ces problèmes. Une femme Myamlenge est violée, une femme Bembe est violée, une femme Babouyou est violée. Même les enfants Myamlenge sont tués par la guerre. Nos propres enfants Bembe ont été tués par la guerre. On a dit non, c'est mieux que nous puissions nous mettre ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut aider quelque chose. On s'est dit, on avait parlé dans la salle, qui sont les femmes qui sont volontaires à héberger les enfants Myamlenge. Une femme pouvait se dire, moi je vais prendre 2 personnes chez moi dans ma famille, une autre personne. Alors il y avait un groupe de mamans qui étaient des volontaires pour prendre les enfants en charge. Ils ont étudié 2 mois sans problème. Le premier groupe était au nombre de 17. Quand on a vu que les gens là avaient étudié sans problème, on ne les avait pas tués, n'étaient pas maltraités, alors il y a eu des messages qu'ils ont envoyés chez eux, que nous sommes bien accueillis dans les familles Bembe. Alors d'autres élèves sont descendus, le deuxième groupe était au nombre de 60, ils ont commencé aussi à étudier sans problème. Quand leurs familles ont constaté que nos enfants ils étudient sans problème, ils ont dit non, vraiment, il y a encore eu un autre, le troisième groupe, qui était au nombre de 100, 113, 100, combien comme ça. Et nous avons vu que le travail qu'on avait fait avait vraiment un impact. Parce qu'avant, on ne se supportait pas, on ne pouvait pas supporter un enfant Myamlenge. Même un Myamlenge ne pouvait pas supporter de voir un Mbembe à côté de lui. Mais compte tenu des échanges que les mamans organisaient, on a commencé à se supporter. On a vu, ah, c'est bien.
Est-ce qu'elles étaient payées, les familles, pour accueillir des enfants?
Non, c'était leurs propres initiatives. On a vu que nous tous, c'est nos droits qui étaient violés. Tant que Mbembe, tant que femme Myamlenge, tant que femme Bouy, on a vu que nous avons les mêmes droits et c'est les mêmes droits qui étaient violés. Alors on a dit, nous les femmes, on ne part pas en guerre, aller faire la guerre ou quoi. On a dit non, c'est mieux que nous puissions nous unir pour voir comment nous pouvons mettre fin à ces problèmes. Les femmes ont commencé aussi à se soulever. Parce qu'avant, les femmes étaient vraiment marginalisées. Il y avait la coutume. Il y a notre culture aussi qui dit que la femme ne peut pas dire quelque chose. Mais grâce au séminaire, la femme a commencé à savoir que moi aussi, je ne peux pas rester là-bas en croisant les mains. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que si je reste les mains croisées, il y a mon mari qui va partir en guerre. Il y a aussi mon fils qui va partir en guerre. Et le conflit va continuer. Nous allons continuer à être des victimes, être violées tous les jours. Les mamans ont commencé à faire des sensibilisations dans leur propre maison. Si par exemple, tu vois que ton droit est violé dans la maison, la femme va venir accuser l'homme pour dire que mon mari va faire telle chose. Si le mari est parmi les groupes de rebelles, il y a la femme qui va commencer à conscientiser son mari, à lui montrer les dangers de son implication dans les groupes de rebelles. Il dit, pourquoi tu veux aller faire la guerre? Tu ne vois pas que tel a perdu son fils, ou bien moi, mon fils va mourir là-bas. Alors on a vu que les groupes, ou bien le nombre de gens qui partaient s'enregistrer dans les groupes de rebelles commençait à diminuer. C'est le rôle que les femmes avait joué chez nous. Et jusqu'à présent, on continue à jouer ce rôle pour consolider la paix. Parce qu'avant, les femmes, on disait que le problème de la guerre, c'est pour les femmes. Mais quand les femmes sont devenues conscientes de leur rôle et conscientes aussi de toutes ces conséquences que nous sommes en train de subir, on a commencé à se faire des sensibilisations dans des villages, dans des fins fonds, et identifier aussi des problèmes. S'il y a un problème qui surgit, et même il se constitue un petit groupe que nous appelons le noyau de paix ou bien comité de paix. s'il y a un tel problème que les gens là identifient, ils vont aller dans les groupes là, dans les comités de paix, on va dire tel a un problème, on va appeler la personne. Si c'est son mari qui est la cause de ce problème, on va interpeller l'homme pour lui dire pourquoi tu déranges ta femme, pourquoi tu fais ça. Maintenant l'homme va avoir peur, commence, ah, avant nos femmes avaient peur. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux rien faire chez moi à la maison. Chaque fois que je fais quelque chose, ma femme va m'amener devant leur comité de paix. Nous avons vu que la stratégie que nous avons montée, ça nous aide. Pour le moment, les femmes commencent à se sentir libres, même s'ils ont des problèmes dans leur propre ménage. Ils ne cachent plus ces problèmes-là. Ils essaient de les faire voir et s'exprimer librement. Avant, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi nous continuons toujours à sensibiliser, à continuer à sensibiliser les femmes du fin fond, même de loin des villages, pour qu'elles-mêmes aussi puissent se prendre en charge. Les femmes avec qui nous parlons, ce sont vraiment des analphabètes. Mais elles commencent à revendiquer leurs droits grâce aux multiples sensibilisations. Elles disent que si tu te laisses toujours abattu par ton mari, sans que tu puisses parler ou dénoncer, toi-même tu te fais violence. Parce qu'il faut savoir d'abord quelle sorte de violence sexuelle et violence domestique. Parce qu'il y a plusieurs formes de violence. Alors on essaie de sensibiliser les femmes sur leurs droits.
Sensibilisation, ça c'est un joli mot, Lucie. Ça veut dire concrètement aller très haut dans les collines, rencontrer des femmes qui sont d'autres tribus, d'autres villages, et essayer de parler avec elles pour leur faire comprendre leurs droits. Aller très haut dans les collines, ça veut dire marcher pendant une journée entière sur des chemins de montagne. C'est extrêmement épuisant, et elles font ça dans un contexte qui est toujours hostile, avec des guerriers un peu partout, quelquefois c'est la guerre ouverte. Elles risquent, comme d'habitude, beaucoup d'ennuis, beaucoup de viols. Et elles risquent d'être très mal accueillies quand elles arrivent dans les villages d'en face. Et elles font quand même des opérations de sensibilisation.
Avant, on parlait seulement de violences sexuelles. Par après, on a su qu'il y a plusieurs formes de violences faites à la femme. On a commencé à identifier une par une. Alors, plusieurs femmes ont vu que leurs droits vraiment étaient violés. Parce qu'il y a une femme, chaque fois pour donner de l'eau à son mari, il faut qu'elle reste à genoux pour qu'elle puisse donner. Oui. Qu'elle puisse donner de l'eau à son mari. Mais par après, là, nous sommes égaux. Pourquoi l'autre peut me traiter comme ça? Alors, on a commencé par s'entretuer. Alors, on avait créé un centre pour couture, pour aider les veuves. On a donné des machines à coudre les habits pour commencer les activités.
Ouais. Ça
marchait, ça? Oui, ça marche. Ouais. Même s'il y a les conflits qui naissent, mais les femmes sont soudées. On a dit que notre communauté, c'est la communauté femme. Moi, je ne peux pas dire que je suis de telle communauté. Voyons notre groupe que c'est notre communauté, notre clan, c'est la femme, notre tribu, c'est femme, notre ethnie, c'est femme. Oui, ma tribu, c'est femme.
Alors, on est dans la même tribu.
Yeah.
c'est la fin de Lilith Martin et les autres. Du coup, on termine notre émission sur l'indépendance de la République démocratique du Congo. Du coup, on a vu un peu l'histoire de la colonisation par les Belges et de l'indépendance, de la souveraineté des peuples, et puis un peu de ce qui s'est passé après. Et puis, pour terminer, sur les violences sexuelles et les luttes, les moyens d'autodéfense qu'ont trouvé des femmes pour ne pas rester dans cette situation. Voilà, on était avec notre invitée spéciale Bijou Makajika, qui était journaliste dans une radio à Kinshasa au Congo, et du coup qui nous a appris plein de choses pendant cette émission. On te remercie vraiment très fort d'avoir voulu participer.
Ouais, merci, c'est moi qui vous remercie.
Ouais, se lancer des fleurs, de vouloir nous expliquer tout ça et de participer avec nous pendant une heure sur Lilith Martin et les autres. Et puis on aura encore des milliers de choses à raconter sur ton pays, sur la géopolitique, sur ce qui se passe. Moi, j'aurais encore plein de questions à te poser, mais bon, ça sera hors antenne parce que là, c'est la fin de l'émission. Ouais. Et le dernier morceau était un morceau du groupe Kasai All Star, et du coup, 30 secondes, est-ce que vous êtes prêts à attendre? Je vais bientôt pouvoir vous dire le nom du morceau. C'était Drowning Goat. Et en fait, c'est un groupe tradit moderne pratiquant du coup de la musique traditionnelle amplifiée par leurs soins. Et ils regroupent en fait 25 musiciens venant de 5 groupes, tous originaires du Kasaï, une province congolaise de la taille de la France. Ça, il faut bien se le dire, et qui sont issus de 5 ethnies différentes dont chacun possède sa propre culture, sa propre langue et ses propres traditions musicales, et qui étaient considérés comme incompatibles jusqu'à ce que des musiciens décident de jouer ensemble, ou comme nous disait Lucie, des femmes décident de faire des groupes ensemble pour créer de la solidarité. Et du coup, je pense comme plein de formes doivent exister au Congo et que on n'aura qu'à découvrir. Voilà, ça c'était comment ils étaient décrits sur Wikipédia. Et du coup, la chanson était dans ta langue que tu...
Tiluba.
Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a choisie.
Oui.
Allez, on vous quitte avec un dernier morceau, Death Sundance Kid, Dead Cowboy. Voilà, la classique de Lilith Martin et les autres. Et puis, je crois que pour nous, c'est l'été. Je pense qu'on va avoir besoin de se reposer. Et puis, peut-être qu'on reviendra bientôt dans d'autres émissions, toutes les trois, où on reviendra bientôt sur Radio Canu. Voilà, c'est Radio Canu 102.2 FM. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre blog sur Radio Canu ou sur le site Radio Rageuse. Ciao!